Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Antichlec qui juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, Benjamin des commissaires de course, en ce vendredi 12 juillet, pour parler de l'étape 7, Belfort-Chalon-sur-Saône, cette étape la plus longue du Tour de France avec ses 230 km et on les a bien sentis. Les organisateurs ont voulu qu'on s'associe aux coureurs pour sentir cette longue étape et ça a été dur. Avec moi ce soir pour décrypter cette étape, peut-être pas mettre kilomètre par kilomètre comme le voudrait Max, Charles, bonsoir Charles.
Salut Ben et bonsoir à tous.
Également Mathieu, bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Et enfin Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Alors aujourd'hui l'étape, on va la résumer comme cela, c'est-à-dire deux vaillants combattants, deux amis, Johan Ofredo et Stéphane Rossetto. Quelques petites chutes. Dans TJ Van Garderen qui s'est fait attendre par son équipe comme s'il était maillot jaune. Et Nicolas Roche qui tombe tout seul. Et un sprint avec une caméra qui était bizarrement placée. Victoire de Dylan Groenewegen devant Caleb Ewan, Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Jasper Philipsen, Elia Viviani, Giacomo Nizzo, Jasper Stuyven, Michael Matthews et enfin Alexander Kristoff. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le top 10, mais il y a tellement peu à dire sur cette étape qu'on peut les citer. Rendons hommage, Mathieu, aux deux courageux de l'étape, dont Stéphane Rossetto, premier Tour de France, et qui se fait plaisir.
Oui, voilà, on a eu deux coureurs qui se sont fait plaisir, deux baroudeurs un petit peu à l'ancienne qui sont partis. Bon, on les a laissés partir facilement et l'écart n'a jamais dépassé les 6 minutes. Et ils ont toujours été très, très contrôlés. Et voilà. Et Ofredo a même dit à l'antenne une fois repris que ça allait pas être pour cette fois. Ben non, c'était pas pour cette fois, effectivement. Mais bon, ça paraît impossible, en fait, hein, pour des baroudeurs sur des étapes comme ça, d'aller jouer la gagne, hein, surtout à deux. Mais de toute façon, le peloton, on n'avait pas l'intention de laisser partir plus de monde.
Alors, je me suis renseigné pour savoir quand est-ce qu'une échappée sur le plat était allée au bout sur le Tour de France. Donc, en troisième semaine, c'est à Salon de Provence en 2017. C'était Boissonnaguen qui l'avait remporté. C'est une étape qui était assez dure sur sa première partie. Et c'était surtout en troisième semaine. Par contre, en première semaine du Tour de France, la dernière victoire d'un échappé, on doit remonter 10 ans en arrière, puisque c'est Thomas Vauclair qui l'avait remporté à Perpignan en 2009. 10 ans de sprint, Greg.
C'est ça, 10 ans de sprint, et on sent que ça risque de continuer, hein, parce qu'un des gros soucis, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de candidat pour l'échapper. Et on peut remercier Ofredo et Rossetto, qui sont les deux seuls courageux, mais c'est vraiment deux cas particuliers. Rossetto, son premier tour, je crois, donc il se fait plaisir, il est un peu comme un gamin, il se dit, lui, ça lui, mais il s'amuse. Et Ofredo, on sait tous que c'est un cas un peu particulier, une mentalité un peu particulière. Une personnalité assez forte, qui se fait marrer de partir en échappée aussi. Donc, on peut les remercier, ces deux-là, d'avoir tenté. Mais malheureusement, le problème, je pense qu'on y reviendra, c'est qu'on n'a plus de candidats pour ces échappées-là.
Alors Charles, quand ils partent, il y a un fort rumeur, l'a souligné sur le forum. Terpstra en première ligne, mais qui ne sort pas d'Arkéa non plus. On les a juste vus faire le train pour André Greipel à 5 km de l'arrivée avant de tous disparaître. Qu'est-ce qu'attendent toutes ces personnes qui ne grimpent pas suffisamment pour espérer quelque chose sur une étape vallonnée et au final qui sont en train de faire un Tour de France complètement aux F.
Je pense qu'ils attendent que les profils soient un peu moins pourris, tout simplement. Parce que moi, je tiens vraiment à souligner le courage d'Ofredo et de Rossetto, parce que quand on regarde 230 bornes et pas une côte, rien du tout dans les 100-150 derniers kilomètres, si j'étais coureur, en tout cas, je vois pas à quel moment j'aurais envie de sortir du peloton et d'aller prendre du vent pendant 200 bornes à l'avant, sachant que c'est voué à l'échec. Donc, je pense que Le problème, il vient d'ASO qui devrait faire un effort sur ses parcours. Je ne sais pas pourquoi faire 230 bornes, pourquoi faire aussi long quand c'est aussi chiant, et pourquoi pas mettre une petite bosse dans le final, enfin, faire en sorte qu'on ait au moins la possibilité qu'il se passe quelque chose, justement donner envie pas aux baroudeurs de se glisser à l'avant, quoi.
Mathieu, c'est un débat qui revient souvent dans cette émission pour savoir que faire avec ces étapes de plat. Pour ma part, l'un de mes chevaux de bataille, c'est le classement de meilleur grimpeur avec un barème depuis quelques années qui est ridicule. C'est-à-dire que là, Stéphane Rossetto et Yoann Offredo sont allés se disputer la bagatelle de 4 points sur l'étape. C'est sûr que y a rien à tirer. Le sprint intermédiaire, même s'il rapporte beaucoup de points, vu qu'il est seul sur l'étape et qu'ils savent qu'ils ne vont pas aller au bout, apportera pas suffisamment pour se classer. Alors Offredo est dans les 15 premiers, je crois, du maillot vert, mais
8e, je crois.
Ah, il est remonté après l'arrivée.
Ah, j'ai pas vu le classement après l'arrivée.
Je vois
encore
12e, 12e,
12e,
49
donc.
points, mais bon, on va pas se battre pour un top 15 au maillot vert.
Non, c'est sûr. Mais enfin, le gros problème, en fait, c'est que les sprinteurs sont des stars et que c'est des coureurs qui coûtent très cher aux équipes, qu'il y a des équipes qui viennent sur le tour avec seulement leurs sprinteurs, comme par exemple l'Auto Soudal, hein, qui, à part Ewan, ils ont quand même pas grand monde. Pour faire quelque chose de sérieux. Enfin, je suis peut-être un petit peu sévère en disant ça, mais bon, en gros, c'est ça. Et donc, il faut faire plaisir aussi à ces équipes-là qui ont des sprinteurs et qui payent très cher leurs sprinteurs. Et donc, il faut bien des arrivées qui se terminent au sprint. Si on élimine les sprinteurs sur toutes les étapes, il va y avoir un problème pour ces équipes-là. Je
Mais il
pense
y
que
a.
le problème, il vient de là aussi.
Ouais, après, de toute façon, même en rajoutant des difficultés, on va pas forcément éliminer les sprinters. C'est ce que je débattais sur cela, sur tout. Oui, Craig?
Diminuer peut-être les délais sur les étapes de montagne, par exemple. Après,
Ouais,
ce qu'il
peut-être.
faudrait, ce serait décourager certains sprinteurs de venir. Que... Alors,
Bah, en fait.
évidemment, c'est l'épreuve la plus prestigieuse, donc forcément, ils veulent tous venir, mais en faisant quelque chose, peut-être d'un début un peu plus dur, peut-être qu'il y en aurait un ou deux en moins. Enfin.
Moi, je crois surtout que ce qu'il faudrait arriver à décourager, Charles, je te passe la parole juste après, c'est les équipes plus que les sprinteurs. Parce que toutes les équipes, dès qu'elles ont un coureur qui va un peu vite, on fait rien. On attend, on peut espérer la victoire. Enfin, je veux dire que les équipiers de... Comment ils s'appellent? Groenewegen, Sagan, Ewan, allez, Colbrelli, Viviani, sortent pas. Bon, déjà, je trouve que ça fait beaucoup autant d'équipes puisqu'il y aura qu'un récompensé. Mais où sont les autres, quoi? C'est pas parce que tu perds un coureur pour Nizzolo que le gars il va d'un coup disparaître du classement, Charles.
Ouais, moi je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il faille éliminer les sprinteurs, bien au contraire. Enfin, pour moi, le Tour de France, ça doit être un juste équilibre entre justement tous les types de coureurs. Et quand je parle de purge, de trucs comme ça sur les étapes comme aujourd'hui, enfin, moi mon but dans ces cas-là, c'est de créer une indécision. En fait, je m'en fiche que les sprinteurs gagnent 4, 5, 6 étapes pendant le Tour de France. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait quelque chose d'indécis, qu'on soit pas sûr du scénario avant même que l'étape ait commencé. En fait, c'est pour ça que je parle de pourquoi pas mettre une petite bosse, enfin donner du grain à moudre, en tout cas donner quelque chose qui procurerait l'envie chez les baroudeurs de s'échapper, mais en aucun cas de supprimer tous les sprints. En fait, pour moi, ce qui crée l'envie chez les gens de venir regarder les courses, c'est qu'il y ait une indécision. Si tout est joué à l'avance, les gens vont arrêter de regarder. Enfin, si comme quand Armstrong dominait, ou si les Sky ou les Ineos dominent tout, enfin, c'est pas forcément bon pour le vélo. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit pas sûr du résultat à l'avance, en fait, quoi.
Tout à fait, Baptiste dit encore une fois le problème de diffuser l'intégralité de cette purge. Ouais, mais même si on diffuse que les 90 derniers kilomètres, bah c'est chiant. Tu te fais chier moins longtemps, mais c'est chiant. C'est chiant parce que tu sais très bien que ça va aller au sprint et qu'il n'y a rien d'autre à attendre de cette fin d'étape.
Et à ce propos, enfin, on parle de division intégralité, mais rappelez-vous, à l'époque, quand ça a commencé, il y a 2-3 ans, je crois, on se disait que ça allait encourager les baroudeurs à partir, justement, pour passer plus de temps, entre guillemets, à la télé. Et finalement, on voit que c'est pas tellement le cas, hein. On n'a pas toujours pas de candidat.
Et ce qui fait peur, c'est que des étapes comme Colmar sont maintenant réservées aux sprinteurs qui passent les bosses, quoi. Ça m'a tué avant-hier de voir une échappée de 3 et derrière les équipes de sprinteurs faire le boulot. Et au final, on fait presque même barrage, même des étapes comme ça, on bloque, quoi. Alors peut-être c'était parce que c'était un début du tour, mais je m'attendais pas du tout et je crois qu'aucun commissaire de ceux qui ont, parlé, qui ont présenté le Tour de France, Sunday, un truc comme ça. Charles, oui.
Mais pour moi aussi, l'un des problèmes, après, je pense que les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais c'est, en fait, c'est un peu un effet pervers pour moi de cette volonté de réduire les équipes, parce que forcément, plus la taille des équipes est petite, moins on peut diviser les forces, entre guillemets, et peut-être qu'à 9 coureurs, et ben justement, ce 9e coureur, il pouvait aller se glisser dans l'échappée, ou on pouvait prendre un mec en plus. On a vu que l'an passé, certaines équipes avaient tenté d'avoir une double carte, un sprinter et un grimpeur, et ça ne l'a pas forcément fait. Et j'ai l'impression que cette année, ben, on a tiré les leçons de cette édition 2018, et on se concentre ben, justement sur un seul objectif, soit un grimpeur, soit un sprinter, mais on ne disperse pas les forces, quoi.
Ouais, après, Baptiste dit une solution, c'est d'arrêter d'espérer du spectacle tous les jours pendant 21 jours. Mais on en est loin du spectacle tous les jours pendant 21 jours. On en est très loin. Et après, on ne parle pas de bagarre entre les favoris ou quoi. Mais 2-3 cotes dans le final, on peut se dire ah, ben, regarde Nancy. Il y avait une cote, bon, il ne s'est rien passé. Il y a eu l'attaque de Calmejean. Bon, mais on se disait est-ce qu'il peut se passer peut-être quelque chose dans la cote? Il y a eu quelques lâchés. Bon, ben, il ne s'est rien passé. Mais on peut se dire que peut-être. Mais là, quand même, tu vois le profil d'étape, tu sais déjà d'entrée qu'il ne va rien se passer. Parce que les gars n'ont rien à aller chercher. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Maintenant, parlons du sprint en lui-même. Groenewegen, enfin, Greg.
Ben oui, c'est vrai qu'il... Enfin, c'est bizarre de le dire, mais c'est que finalement, sa première victoire sur cette étape-là. Donc, c'était un peu la déception, finalement, parce qu'il semble être le plus fort. Et jusqu'à présent, ben, ça a toujours été décevant. Donc là, bien placé par ses équipiers, il s'est enfin imposé. C'était quand même quelque chose. Enfin, dans les pronos, on le retrouvait souvent. Mais entre les chutes ou les erreurs, on ne l'avait pas vu. Donc là, c'est sa première victoire sur ce tour-là. Enfin, sans compter hein, le contre-la-montre par équipe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait.
Alors, Groenewegen qui revient en forme, Charles. Est-ce qu'on peut s'attendre maintenant à le voir enquiller les succès ou est-ce que, contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années quand Kittel était imbattable, certaines équipes se disent « bon, ben, même s'il est fort, on va peut-être envoyer un gars dans l'échappée, les faire rouler pour pouvoir les battre au final parce que de toute façon, c'est plus ou moins qu'il y aura un sprint ».
Non, moi je reste persuadé que c'est le plus fort des sprinteurs qui est présent sur la course. Il n'a pas eu de chance en début de Tour de France, puisqu'il a chuté. Ensuite, à Nancy, on a bien vu qu'il s'accrochait là, justement dans la bosse que tu parlais et qu'il a dû perdre beaucoup d'énergie. Une énergie qui lui a forcément manqué après lors de l'arrivée. Donc, ouais, je le vois encore gagner quelques étapes. Après, je ne dis pas qu'il gagnera tout, parce que forcément, il y a plein de possibilités lors d'un sprint. Mais je pense que ça sera celui qui aura le plus de victoires parmi les hommes rapides du peloton à la fin du Tour de France.
Oui, de toute façon, Mathieu, on est d'accord. On ne peut pas dire que Groenewegen, parce qu'il a gagné une fois, est imbattable. Notamment, je pense par exemple à Viviani, qui a remporté également une étape, qui aurait annoncé qu'il aurait crevé dans le dernier kilomètre.
Oui, effectivement, c'est ce qui a été annoncé sur le forum. Et oui, et Viviani, il semblait bien. En tout cas, c'était lui le mieux emmené dans le final, hein, parce que le final a été assez décousu, j'ai trouvé. Les équipes étaient un peu toutes mélangées. Là, il n'y avait pas vraiment de train bien identifié. Il n'y avait que la De Koenig qui avait un gros train dans le final, mais Viviani, ouais, apparemment, a loupé son sprint à cause de cette crevaison. Et puis bon, Ewan, il était quand même pas loin de Groenewegen. Hein. Il échoue à, je sais pas, à 10 cm. Donc, Ewan, je le vois bien en remporter une d'ici la fin du tour. Hein. Je pense qu'il va en gagner une, surtout que l'Autosudal est là que pour lui ou quasi. Donc, il a plutôt la pression de ce côté-là. Après, voilà. Oui. Aujourd'hui, on a vu Philipsen qui est venu se mêler au sprint et faire une plutôt bonne perf en battant Christophe largement. Donc, est-ce qu'on va le revoir à ce niveau-là? L'avenir nous le dira également.
Ça, c'est la question. Mais lui qui est jeune, le voir faire un si bon sprint sur une étape de 230 km, c'est encourageant. Un autre, par contre, Mathieu, qui a du mal, c'est Nicolo Bonifacio. Et ouais. Même en fait, au-delà de lui, c'est toute son équipe qui a du mal.
Ah oui, oui, le team Total Direct Energy, effectivement, est plutôt en crise, on va dire, parce que Bon, hier, on ne les a pas vus. Ils ont envoyé dans l'échappée leur plus fantastique grimpeur, c'est-à-dire Grelier. Donc, je ne sais pas si c'était la meilleure idée. Et aujourd'hui, Bonifacio, ben, on voit bien que Bonifacio, le pauvre tout seul, c'est un petit peu difficile dans le sprint final d'aller se placer, surtout que c'était assez sinueux le final aujourd'hui, étroit par moments, plus large à d'autres. Donc, il a essayé de se mettre vers l'avant, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Hein. Donc,
On se pose la question de... Du coup, de comment a été sélectionnée cette équipe, parce que on a dit que plusieurs coureurs, pour le moment, on ne les voyait pas. Ce n'est pas forcément des as de la montagne. Je pense par exemple à Niki Terpstra. Et on se retrouve avec un Bonifacio encore plus esselé que ne l'était Bouda l'an dernier. Il y a un problème.
Oui, il n'y a personne pour l'emmener. Il n'y a pas de train, même, il n'y a même pas deux ou trois coureurs qui peuvent vraiment bien l'emmener. Oui, après, les grimpeurs, c'est des grimpeurs quand même un petit peu de seconde zone, hein, avec tout le respect que je leur dois. Et puis, bon, Terpstra, bon, il s'illustrera peut-être sur certaines étapes, mais c'est vrai que je ne vois pas trop lesquelles non plus. Donc, ouais. Ouais, c'est un petit peu mystérieux, cette sélection totale.
Après, Arkea, Greg, Greppel a fait 12e. Il va peut-être arriver à attraper un top 10 d'ici la fin du tour, mais quand on voit hier qu'il fait 3e du sprint intermédiaire, alors qu'il est entouré d'une échappée de puncheurs et de grimpeurs, c'est... pas facile, quoi.
Bah, enfin, sur l'étape d'hier, on va pas le blâmer. Moi, je le trouvais plutôt héroïque de tenter sur...
Peut-être pas héroïque non plus.
Mais il est courageux, au minimum, d'avoir tenté quelque chose, alors que peut-être dans son équipe, il y en avait d'autres qui étaient... Enfin, c'est quasiment le seul Arkea qu'on a vu à l'attaque, avec un peu Barguil, mais c'est un contexte différent. Mais voir que Greppel est à l'offensive, j'aimerais bien peut-être que certains de ses coéquipiers soient aussi, tentent aussi de se placer dans les échappées.
Mais c'est vrai ce que tu dis en plus. C'est le coureur le plus offensif d'Arkea.
Alors qu'on l'a vu, même il a fini le vélo sur l'épaule, hein, à la planche des Belles-Filles hier.
Oui, oui.
Un des gros pourcentages.
Il fait le spectacle. Et enfin, pour l'autre Continental Pro française, Cofidis, quand on était jeune, il y avait un dessin animé qui s'appelait Ken le Survivant. Là, c'est Rossetto le Survivant, parce que Charles, Laporte, et même toute l'équipe, en fait, personne n'a fini le peloton. La plupart sont malades, c'est très compliqué ce Tour de France pour eux.
Ouais, bah quand tu prends ni Bouhanni, ni Hofstetter, ni Atapuma, c'est compliqué de briller sur des étapes. Alors après, tu peux t'échapper, tu peux essayer de te montrer à l'avant, mais forcément.
C'est compliqué. Bon, après, si les autres avaient été malades également, je suis pas sûr que ça aurait fait mieux, mais bon. Parlons de l'étape de demain. On arrive à Saint-Etienne, on part de Mâcon, très grosse étape avec 4000 mètres de dénivelé. Cette fois-ci, on enchaîne les côtes ou petits cols de entre 2 et 5-6 km, mais avec des pourcentages toujours au-dessus de 10%. Là, je regarde, j'en vois un de 8 km 5 à 4,5%, mais c'est une vraie étape de moyenne montagne. Cette fois-ci, il n'y a pas d'arrivée au sommet pour bloquer la course. On peut s'attendre à quoi, Charles?
Je sais pas trop, on en parlait un peu avant l'émission, c'est une étape vraiment difficile à lire. Est-ce qu'on va de nouveau avoir un sprint à entre 50 et 80 coureurs? Est-ce qu'on va avoir les baroudeurs? Franchement, je sais pas trop, j'espère qu'on aura des baroudeurs devant, un gros groupe d'une vingtaine de coureurs, mais après ce qui s'est passé à Colmar, j'ai du mal à y croire malheureusement, mais j'espère.
Contrairement à Colmar, Greg, c'est cependant une étape dont la difficulté est répartie tout au long de l'étape. Alors qu'à Colmar, il faut dire quand même que les ascensions, au nombre de trois, étaient surtout en fin d'étape. Là, à partir du 40e kilomètre, ça monte et ça descend.
Voilà, ça sera quasiment, hein, il n'y aura pas le moindre répit. Donc, c'est un joli terrain de jeu, hein, pour ceux qui veulent tenter quelque chose. Avec à noter dans le final, hein, la côte de la Jalière, qui est à quoi, 13 km de l'arrivée. 2 km à presque 8%, il y aura aussi des bonifications.
Tout
et on
fait.
A vu que ça pourrait intéresser certains. Alors, je ne sais pas si le peloton, justement, se laissera beaucoup d'avance aux échappés. Parce que peut-être qu'à la Philippe trouvera là une côte à 8% à 10 km de l'arrivée. C'est le profil pour la Philippe, par exemple.
Mais alors, justement, Mathieu, par rapport à ce que dit Greg, on tombe dans une situation paradoxale. Parce que la De Koenig va vouloir essayer de garder peut-être un certain écart avec l'échappée, mais non pas du tout l'équipe pour faire ça. On l'a vu, hein. Non, c'est pas possible. Et la Trek, qui a l'équipe peut-être pour un peu plus gérer cela, va elle préférer sans doute créer un écart un peu plus grand avec l'échappée. Ça peut donner quoi selon toi?
Bon, moi, je vois bien un gros coup partir. Effectivement, je ne suis pas sûr que la De Koenig réussisse à maintenir un écart suffisamment faible. Ils vont pas, ça m'étonnerait qu'ils s'épuisent toute la journée pour hypothétiquement réussir à remporter le maillot, enfin que qu'Alaphilippe reprenne le maillot juste sur cette côte. Alors peut-être que, je ne sais pas comment est le final entre la dernière côte et Saint-Etienne, est-ce qu'Alaphilippe peut espérer fausser compagnie au peloton et arriver plus ou moins seul, alors soit derrière les échappés, soit pour la gagne, plus probablement derrière les échappés à mon avis, avec un écart suffisant sur ce qui restera du peloton. Je ne sais pas trop comment sont les routes, apparemment c'est quand même de la petite route assez sinueuse, donc peut-être qu'il y aura moyen de partir. Je pense que c'est plutôt là qu'il pourra faire une petite différence et espérer remporter le maillot.
Ouais. Charles, du coup, est-ce qu'on va voir Alaphilippe à l'attaque? Est-ce que AG2R va essayer d'accélérer parce qu'ils ont, ils ont un peu plus que ça à faire, quoi? On peut s'attendre quand même à une course offensive.
Ouais, je pense. Ben, Alaphilippe, il avait l'air très déçu d'avoir perdu le maillot jaune hier. Donc, je pense que demain, il tentera tout dans le final pour tenter de reprendre quelques secondes à Sikoné. Mais après, Sikoné, ça va être dur de le lâcher. En plus, il n'a qu'un seul adversaire à surveiller, c'est Alaphilippe. Donc, je pense qu'il ne lâchera pas sa roue dans les derniers kilomètres.
Il y a Tuns aussi qui n'est pas si loin.
Ouais, mais Tuns, après, bon, je pense que physiquement, il est quand même un peu moins fort. Donc, à voir. En tout cas, ouais, Alaphilippe devrait tenter. Je ne les vois pas trop contrôler la course, quand même, les Quick-Step. Parce que, enfin, mine de rien, le profil ne s'y prête pas trop. Je vois plus Alaphilippe tenter de s'extirper du peloton ou du groupe des favoris dans le final avec un Ciccone qui lui colle à la roue, comme je le disais.
Ciccone, Ciccone.
Ciccone.
C'est Cédric qui m'y fait penser sur le chat parce qu'il fait des jeux de mots à mucho. J'ai oublié ce que je voulais dire tellement je lis des bêtises sur ce live.
C'est Baptiste qui troll là, ça va pas du tout.
Ouais, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que, messieurs, prendre la parole qui veut, on peut assister à la suite de la valse du maillot jaune? De même.
Ouais, ça, je veux dire oui, allez.
Ouais. Et vous, Mathieu et Charles?
Moi, je dirais non.
Désolé, j'étais perturbé, je lisais le chat, j'ai pas écouté la question.
Voilà, okay. Bah, tu dis est-ce oui que ou tu non vois, est-ce que, en fait,
c'est risqué.
Le maillot jaune peut échoir sur les épaules de quelqu'un d'autre qu'un coureur qui le porte ou l'a déjà porté sur ce Tour de France? Avec une grosse échappée.
C'est pas ça, t'as dit est-ce que le maillot jaune va valser? C'est
oui, différent. Mais justement, je parlais plutôt dans le sens sur un nouveau coureur, parce que vu que je vous ai posé la question hier sur Alaphilippe, est-ce qu'il peut rattraper?
Ouais, je pense que c'est une possibilité. Sachant que la Trek peut pas contrôler, je pense qu'on n'a pas les armes pour contrôler, c'est possible.
Après, il y aura peut-être Ineos qui voudra garder un certain.
Il faut quand même du monde pour maintenir l'écart à 4-5 minutes.
En fait, ça va dépendre de comment l'échappée se forme et qui c'est qu'il y a dedans. Parce que le problème, c'est qu'il y a 40 km plutôt plat pour commencer l'étape. Et on a vu les dernières étapes difficiles que les équipes de sprinteurs, encore ces satanés sprinteurs, sapristi, bloquaient très vite et faisaient barrage. Et du coup, on n'a pas des échappées comme on pouvait les attendre. Je pense qu'on a tous été surpris, on n'en a pas trop parlé hier. De la composition d'échappée et du peu de bagarre surtout qu'il y a eu pour la planche des belles filles, Mathieu.
Oui, effectivement. Hein, effectivement, tout dépend qui aura dans le coup demain. Bon, là, c'est vrai qu'il commence à y avoir des gros noms qui sont assez loin au général. On en avait déjà parlé pour la planche, puis finalement, on ne les a pas vus. Hein, les Yates, Yates le frère, par exemple, qui a d'autres. Je ne trouve plus d'autres noms. Calmejane, par exemple.
Mine de rien, tu me fais penser en disant il y a des gens qui commencent à être loin, que quand on repense à Pierre Roland qui disait perdre du temps sur le Dauphiné, et quand tu vois Ciccone qui n'a pas perdu de taille, qui est maillot jaune, c'est peut-être un peu une époque révolue ça, de perdre du temps.
Ouais, mais peut-être que je pense à ça tout à coup, peut-être que la Trek pourrait se dire que placer Mollema devant, ça pourrait être une option aussi pour ne pas avoir à rouler et au cas où récupérer le maillot jaune. Hein.
Ouais, surtout que c'est un profil qui peut lui convenir. Messieurs, il est temps d'arriver au pronostic puisque l'heure tourne. Ça passe plus vite cette émission que l'étape du jour, hein, c'est bien. Donc, ben, comme d'habitude, je vais énoncer.
Surtout qu'il n'y avait pas Alex Pasteur, donc c'était quand même plus long que d'habitude.
Donc, je vais vous dire sur quoi vous allez pronostiquer aujourd'hui. Donc je rappelle pour ceux qui le font en live, essayez de mettre sur le même message. Donc, bah, comme d'habitude, le vainqueur de l'étape. Mais on arrive également demain à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est les Verts. C'est les Verts, donc qui dit Vert dit sprinter. Les 10 meilleurs sprinteurs, les 10 sprinteurs classés au maillot vert. Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Michael Matthews, Caleb Ewan, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Dylan Groenewegen, Mike Tennyson, Jasper Stuyven. Il y en a quelques-uns qui sont assez bons puncheurs. Lequel finira premier de ces 10 coureurs qui sont les mieux classés au maillot vert? Donc, par contre, j'ai pas noté les noms sur mon PC, donc je vais les écrire petit à petit sur le live. Mais non, en fait, je vais pas avoir le temps si quelqu'un peut le faire. Mais en tous les cas, pendant que vous réfléchissez, le classement évolue parce qu'il y en a beaucoup qui ont cité Groenewegen aujourd'hui ou Alaphilippe pour le top 10 qui serait le mieux classé. Le top 10, ça s'est joué à très peu de choses. Puisque finissent route en roue Alaphilippe 22e, devant Ciccone 23e, et Bernal 24e et Thomas 25e. Donc ça s'est joué à peu de choses. Toujours est-il que le leader est toujours en tête, il nous fait une Sky Ineos, c'est Théo, 4 points. On sait tout ce qui va s'effondrer, tel un vulgaire Primoz Roglic sur le Giro. En 2, Alexandre Paillou, 3 points. Et ensuite, à 2 points, on a quelques-uns qui se détachent, avec notamment Grégory, Charles, Greg et Max pour les commissaires de course. Je reste également à 1 point avec Daniel, avec Mathieu également. Nous n'avons pas encore commencé notre Tour de France. Merci Mathieu d'ailleurs d'avoir mis les noms des coureurs sur le live. Donc, eh bien, Greg, tu commences. Qui vois-tu comme vainqueur d'étape?
Alors, je veux dire, c'est Mohoric.
Ouais, Mohoric. Et ensuite, qui c'est que tu vois comme meilleur des 10 premiers sprinteurs au maillot vert?
Michael Matthews.
Mathieu.
Alors, je vais dire Woods pour l'étape.
Ouais.
Et puis, comme mieux classé, je vais dire Trentin, Matteo Trentin.
D'accord. Charles.
Je vais dire Max Charman pour l'étape et Matthews pour le mieux placé des 10 premiers au maillot vert.
Matthews. Pour ma part, je vais jouer français. C'est surprenant, n'est-ce pas? Je vais mettre Guillaume Martin, qui a un profil à aller d'un échappé et qui avait été très bon sur le Dauphiné sur une étape similaire. Et pour le maillot vert, je vais jouer... Je vais pas jouer comme vous. Je vais jouer Sonny Colbrelli. Je trouve qu'il est en forme et peut-être qu'il peut passer cette... Enfin non, il passera pas, mais peut-être qu'il finira devant les autres. Il suffit. Et si tous les autres font au-delà de la 5e place, il fait 98e, j'ai gagné.
C'est vrai.
C'est pas faux.
Et oui, ils vont vouloir s'économiser pour Brioude et surtout pour Albi, les sprinters. Alors, feu dit Van Aert pour le maillot vert, mais est-ce que Van Aert est dans les 10 premiers?
Non,
Van Aert n'est pas dans les 10 premiers. Van Aert, il n'est même pas dans les 20 premiers au classement du meilleur sprinter. Je répète les noms pour ceux qui le font. Alors, après, vous pouvez aller le voir, je suppose que les classements sur VéloClub.net ou au pire sur ProCycling Stats. Vous regardez le maillot vert et vous aurez le classement. N'hésitez pas à le mettre dès que la vidéo est disponible. Vous aurez plus le temps de réfléchir comme cela. En tous les cas, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve demain. On espère avoir plus de choses à dire sur l'étape du jour. À demain. Au revoir tout le monde.
Au revoir. À demain.
Au revoir.